Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Thomas Hugues.
Et Dominique Tenza pour un journal complet. Bonjour Dominique.
Bonjour Thomas et bonjour à tous.
François de Rugy a-t-il abusé du homard avec ses amis? L'enquête sur son train de vie rendra ses conclusions aujourd'hui.
Sauf surprise, l'ancien ministre devrait en sortir blanchi, même si certains mettent en cause la neutralité de cette enquête menée par le gouvernement. Les températures qui ne cessent d'augmenter et ce n'est pas fini. Dans ce journal SOS Canicule, reportage au centre d'appel où toute la journée, des conseillers tentent de rassurer leurs interlocuteurs inquiets. Revenir aux 90 km/h, c'était une promesse du gouvernement. Dans les faits, c'est un véritable casse-tête. On vous raconte ça. À suivre également la révolte des campeurs à Quiberon, où la mairie veut raser le vieux camping familial pour en faire un hébergement 5 étoiles. Et puis le Tour de France, reprise de la course ce mardi à travers le Gard sous un sol de plomb. Et là aussi, vous l'entendrez, on s'organise pour faire face à la canicule.
Et on connaîtra donc aujourd'hui les résultats de l'enquête sur les dépenses de François de Rugy.
Est-il, comme le laissait entendre Mediapart, un amateur des soirées homard entre amis? A-t-il fait redécorer son appartement de fonction aux frais de la République? Selon les premières informations, les deux enquêtes menées par les services de l'Assemblée et par le gouvernement devraient, l'une et l'autre, blanchir l'ancien ministre. Mais plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer l'absence de neutralité du processus. Une enquête menée en interne peut-elle être impartiale? En tout cas, Marie Mollet, elles ont été conduites par des personnalités dont la compétence ne fait aucun doute.
Oui, les deux enquêtes internes sont placées sous l'autorité de deux hauts fonctionnaires de premier plan. À l'Assemblée, Michel Moreau, secrétaire général de la présidence. Au gouvernement, Marc Guillaume, secrétaire général. Deux juristes nommés sous la présidence Hollande par les socialistes alors au pouvoir. Ni l'un ni l'autre ne doit sa carrière à François de Rugy ou à la majorité actuelle. Alors est-ce suffisant pour garantir à 100% la neutralité des enquêtes? La question divise, y compris les professeurs de droit constitutionnel. Par exemple, pour Didier Mauss, la réponse est non, car ces deux fonctionnaires ont travaillé en contact direct avec François de Rugy.
Une neutralité parfaite, c'est de demander des investigations à quelqu'un qui n'a jamais eu de liaison, de relation avec la personne à contrôler. Or, dans les deux cas, là, j'allais dire, les deux secrétaires généraux ont travaillé avec M. de Rugy il n'y a pas longtemps.
Mais un proche du Premier ministre précise que l'enquête a été confiée à des professionnels de l'inspection qui, eux, n'ont jamais travaillé sous l'autorité de François de Rugy. Une garantie pour Matignon de l'indépendance de l'enquête.
Marie Mollet pour RTL. Icône climatique pour certains, imposture médiatique pour d'autres. La jeune Greta Thunberg est invitée à prononcer un discours cet après-midi à l'Assemblée nationale. L'adolescente suédoise qui s'est mise en tête de faire le tour du monde pour alerter sur le dérèglement climatique est devenue en moins d'un an le visage de ce combat contre le réchauffement. Mais si certains la considèrent comme une héroïne, d'autres l'accusent d'être un pantin, un prophète en culotte courte, un gourou apocalyptique pour les Républicains, dont certains députés appellent à boycotter son discours.
Et d'ailleurs, ce sera le thème de 3 minutes pour comprendre tout à l'heure, 7h20, avec Jacques Serret. On reviendra sur la personnalité de Greta Thunberg. Vous l'avez certainement constaté, si vous avez mis le nez dehors ce matin, il fait de plus en plus chaud.
Et ce n'est que le début de cet épisode caniculaire qui s'accompagne en Île-de-France et dans la métropole lyonnaise d'un pic de pollution à l'ozone. Circulation différenciée mise en place dans ces deux régions dès ce matin. Seules les vignettes critères 1 et 2 sont autorisées à Paris. 1, 2, 3 à Lyon. On vous emmène ce matin au centre d'appel Canicule Info Service, mis en place par le ministère de la Santé. La plateforme téléphonique a été activée et toute la journée, des dizaines de téléconseillers se relaient pour renseigner et rassurer, notamment les plus fragiles. Reportage de Vincent Serrano.
Canicule Info Service, Laurent, bonjour.
À l'aide de son micro-casque, Laurent répond à plusieurs centaines d'appels par jour.
Une ventilation, vous avez des ventilateurs, vous avez quelque chose déjà?
Ses yeux balayent frénétiquement l'écran d'ordinateur, les prévisions météo, les gestes à suivre.
Parfait, et surtout boire régulièrement.
La majorité de ses interlocuteurs ont plus de 60 ans.
Alors c'est une personne qui a différentes pathologies, savoir ce qu'elle peut absorber comme mot malgré sa pathologie. On prend les appels, on va rassurer la personne, on raccroche, hop, ça revient, et ça revient, et ça revient. Comment je rassure? Déjà, je parle calmement. Ensuite, je donne les informations et surtout, j'écoute.
Ce que fait Géraldine depuis plus de 10 ans maintenant sur la ligne canicule.
Et les questions restent souvent les mêmes. Centre de loisirs, est-ce qu'on sort? Association sportive, est-ce qu'on peut faire une activité? On a aussi des mairies qui nous appellent en renfort. Beaucoup de mamans de jeunes parents. C'est une ligne qui rassure beaucoup. Alors, beaucoup, beaucoup.
Sachant qu'au plus fort de l'épisode caniculaire, ce centre d'appel peut mobiliser, si besoin, jusqu'à 50 écoutants.
Un reportage signé Vincent Serrano pour RTL. C'était l'une des promesses du Premier ministre, la possibilité de revenir aux 90 km/h sur les routes départementales.
Oui, mais voilà, il y a la théorie, vous pouvez le faire, et puis la pratique qui impose un certain nombre de conditions. Dans les faits, revenir sur la limitation de vitesse est pour beaucoup d'élus locaux un vrai casse-tête. Derrière les effets d'annonce, ils accusent le gouvernement de freiner ce retour aux 90 km/h et dénoncent, Arnaud Touche, un double discours.
Oui, car ce qui cristallise la colère de certains présidents de conseils départementaux, ce sont ces recommandations proposées par le Conseil national de la sécurité routière. Elles sont au nombre de 6. Tout d'abord, il faut réaliser un état des lieux et notamment évaluer l'accidentalité de certaines routes. Ensuite, il est nécessaire d'expliquer pourquoi un retour aux 90 km/h est demandé. L'étape 3 propose d'établir une liste des tronçons supérieurs à 10 km uniquement, ce qui ne convient pas du tout au département qui explique que ce type de route sans traversée de village est très rare. Vient enfin l'évaluation des risques et la nécessité de faire de la prévention. Enfin, un suivi est demandé après le changement des panneaux. Les élus considèrent que ces règles sont trop contraignantes et qu'il ne sera pas facile de revenir à l'ancienne limitation. Contacté, le ministère de l'Intérieur explique qu'il s'agit là uniquement de recommandations et qu'elles ne sont à aucun moment inscrites dans la loi mobilité aujourd'hui. Cette loi doit par ailleurs repasser devant les députés et les sénateurs.
Les explications d'Arnaud Touche pour RTL. À Rouen, c'est bien le mobile raciste qui a été retenu par les enquêteurs après le tabassage à mort de Mamoudou Barry, le prof de droit guinéen. C'était vendredi soir. Un suspect a été interpellé d'origine turque. Il est connu pour des antécédents psychiatriques.
RTL Matin, 7h07.
Dans un instant, la lutte des classes en bord de mer. Des campeurs se mobilisent, on est en Bretagne, pour éviter qu'un 5 étoiles ne vienne remplacer leur lieu de rendez-vous estival. A tout de suite.
RTL Matin.
RTL 7h08, la suite du journal. Dominique Tenza et vous, Thomas Hugues.
C'est l'histoire d'un modeste camping qui menace d'être rasé et remplacé par un 5 étoiles.
Ça se passe à Quiberon, dans le Morbihan. Et les habitués du Goviro, c'est le nom de ce petit terrain populaire et familial qui accueille des campeurs depuis des générations. Ces habitués ne décolèrent pas contre la décision de la mairie de détruire leur petit coin de paradis estival pour le remplacer par un complexe dernière génération avec tout le confort. La guerre du camping sur fond de lutte des classes, les résidents n'entendent pas se laisser faire. Reportage de Nicolas Bobby.
Non à l'expulsion ! Non !
Furieux, vent debout, les campeurs sont dans la rue. La hache de guerre est déterrée avec la mairie de Quiberon qui va fermer en octobre ce terrain 2 étoiles.
Comme des malpropres, en fin de compte, hein, comme des va-nu-pieds, voilà. On nous vire du camping du Goviro familial, hein, qu'on fréquente pour certains depuis 4 générations. Et on nous vire sans rien nous demander pour mettre un camping à 5 étoiles. Carrément pour ceux qui ont des gros moyens, et nous on va aller manger l'herbe ailleurs.
Habitué à des vacances pas trop chères, ce papy anéanti fond en larmes.
J'ai 77 ans, je peux pas aller ailleurs. Je peux pas aller ailleurs. Je voudrais même, mais je peux pas.
Vive le camping familial! Vive le camping!
Toujours même emplacement, le numéro 181. On n'en démord pas, on y est bien, on a la mer face à nous, les mêmes voisins.
Du côté de la mairie, on affirme que ce camping est obsolète, qu'il faut refaire tous les sanitaires et cela coûterait de l'argent aux contribuables.
La guerre du camping racontée par Nicolas Bobby pour RTL.
RTL Matin, 7h09.
Au Royaume-Uni, changement de style au 10 Downing Street.
L'excentrique Boris Johnson est ultra favori pour remplacer la première ministre Theresa May. Les membres du Parti conservateur ont voté et, sauf énorme surprise, c'est lui le champion du Brexit qui doit être proclamé vainqueur. Personnalité à la fois adorée par les militants mais qui divise les cadres de son parti. Portrait de celui qui sera dans quelques heures peut-être le nouvel homme fort du Royaume-Uni, signé Haute Soufi pour RTL.
Il a discipliné ses cheveux ébouriffés. Depuis quelques mois, il fait tout pour paraître sérieux. Mais beaucoup de Britanniques gardent de lui l'image du maire de Londres coincé sur une tyrolienne en 2012, drapeau britannique dans les mains. À cette époque et souvent par la suite, Boris Johnson répète qu'il ne sera jamais Premier ministre.
Ça n'arrivera pas. Il est plus probable que je sois réincarné en olive ou enfermé dans un frigo ou décapité par un frisbee volant.
frisbee.
Voilà qui résume bien Bojo, comme certains l'appellent ici. Connu pour ses bons mots, ses blagues, son excentricité, l'ex-ministre des Affaires étrangères est aussi coutumier des changements de position, des faux pas et des gaffes. Ce sont pourtant des dossiers sérieux et complexes qui attendent le nouveau Premier ministre. Le Royaume-Uni est en pleine crise diplomatique avec l'Iran. Et puis, il faut régler le Brexit, en théorie avant le 31 octobre prochain. Boris Johnson a répété à plusieurs reprises lors de cette campagne que le pays sortirait de l'Union européenne à cette date, avec ou sans accord, au risque de se mettre à dos de nombreux députés de son parti.
Aude Soufi pour RTL. Au Mali, l'explosion hier d'un véhicule piégé à l'entrée de la base militaire française de Gao, c'est dans le nord-est du pays. Bilan, 3 blessés français et estoniens. Le centre du Portugal, toujours en proie aux flammes, alors que Lisbonne vient de demander l'aide des bombardiers d'eau espagnols. Gigantesque panne d'électricité au Venezuela. Une grande partie du pays, dont la capitale Caracas, est plongée dans le noir depuis hier soir. Les transports, le téléphone, la distribution d'eau sont touchés. Cette nuit, le ministre de la Communication s'est justifié à la télévision en évoquant une attaque électromagnétique contre le système de production dans un contexte de tension avec les États-Unis.
RTL, Tour de France 2019.
Le Tour de France, après une journée de repos hier, les coureurs remontent sur le vélo pour un périple de 177 km à travers le Gard.
Avec notamment la traversée du célèbre pont du Gard, un événement exceptionnel et unique car le sentier est habituellement interdit à la circulation. C'est beau le Gard, mais il y fait extrêmement chaud et notamment en ce moment, les coureurs ne sont pas épargnés par la canicule. Alors le Tour s'adapte, comme le montre ce reportage de Nicolas Georgiou.
Près des camions, au milieu des cigales, les assistants de plusieurs équipes préparent les bidons, les placent dans des glacières. Éric Bouva est le médecin de l'équipage A2R La Mondiale.
Dans des étapes normales, il y a 80 bidons préparés. Dans des étapes comme celle-là, il peut y en avoir 120 de boissons fraîches avec ou de l'eau ou des minéraux, etc. pour pouvoir mieux absorber toute cette eau.
Soit 12 à 15 bidons par coureur lors de l'étape aujourd'hui et le rituel va continuer jusqu'à jeudi. La chaleur peut réellement peser sur la course selon Christophe Riblon, ancien vainqueur à l'Alpe d'Huez en 2013.
C'est un peu comme avec l'altitude, c'est l'enchaînement des jours. Et bien, au troisième semaine, on peut avoir des grosses défaillances et la chaleur peut en être une. Ouais.
La vitesse, le vent adoucissent les conditions en course. Rudy Mollard est l'un des équipiers de Thibaut Pinot.
On passe pas non plus de 15 à 35 d'un coup. On a quand même l'habitude. On a eu quelques grosses chaleurs quand même avant le tour. Ça nous fait pas peur.
La récupération surtout est cruciale. Chez AG2R La Mondiale, le protocole est bien rodé.
On les met dans des piscines de froid et donc ils restent pendant une dizaine de minutes dans des piscines à 10 degrés, ce qui refroidit bien l'organisme pour repartir à zéro.
Certains coureurs vont porter également des gilets rafraîchissants avant le départ, afin d'éviter que le corps ne monte trop vite en température.
Voilà Nicolas Georgiou sur la route du Tour pour RTL. Marina, quelle température
à Nîmes? 35 degrés cet après-midi et à l'ombre évidemment.
Oui, donc ce sera encore pire pour les coureurs.
Alors au classement général, Julien Alaphilippe est toujours premier, Thibaut Pinot quatrième. Un grand bravo aux épéistes français sacrés hier champions du monde par équipe aux Mondiaux d'escrime à Budapest. Ils ont battu les Ukrainiens, de bon augure pour les Jeux de Tokyo l'été prochain. Et puis Nabil Fekir au Betis Séville, c'est fait. Le club andalou a annoncé cette nuit l'arrivée du milieu de terrain lyonnais, contrat jusqu'en 2023, montant du transfert 20 millions d'euros.
Merci Dominique. Dominique Tenza pour le journal de...